Chapitre 5. Réfugiée dans son enclos, Betty, la chèvre de Jensen et de sa mère, ne cachait pas son déplaisir à l'idée de partager sa résidence avec un inconnu. Tandis que la jeune femme préparait un lit de paille pour son invité, Betty ronchonna d'abondance, sa courte queue s'agitant furieusement, et elle consentit à se calmer un peu uniquement lorsque sa maîtresse vint lui gratouiller les oreilles, lui caresser le poitrail et lui offrir une délicieuse moitié de carotte. Sébastien se débarrassa de son sac et de son manteau, mais il garda la ceinture où pendaient ses toutes nouvelles armes. Déroulant sa couverture, il l'étendit sur le matelas de paille. Malgré l'insistance de Jensen, il refusa de s'allonger pendant qu'elle allumait un feu de camp près de l'entrée de la grotte. Alors qu'il l'aidait à empiler des brindilles, Jensen vit qu'il transpirait de plus en plus. À l'évidence, il se sentait très mal. Il parvint pourtant à peler avec son couteau une petite branche encore verte, à entasser les lanières de fibres et à les embraser avec son briquet à amadou. Agenouillé devant les petites flammes, il souffla dessus jusqu'à ce qu'elles soient assez fortes pour se communiquer aux brindilles, puis aux petites branches de sapin baumier à la fumée si odoriférante. Jensen avait prévu d'aller chercher un boulet de charbon chaud dans la cabane pour allumer le feu, mais son compagnon l'avait prise de vitesse. À le voir trembler, elle comprit qu'il avait hâte de se réchauffer un peu, même s'il était brûlant de fièvre. Une délicieuse odeur de poisson grillé montait de la cabane. Quand le vent consentait à ne pas souffler pendant quelques secondes, Jensen entendait les grésillements annonciateurs d'un véritable festin. Les volailles s'étaient réfugiées au fond de la grotte et Betty, pleine d'espoir, ne quittait pas Jensen des yeux en se demandant si elle allait lui offrir une autre moitié de carotte. La caverne était simplement une petite partie de la montagne dont un gros morceau de roche s'était détaché dans un très lointain passé. Comme si une dent géante était tombée d'une mâchoire tout aussi géante pour y laisser un trou béant. Aujourd'hui, des arbres poussaient entre toute une série de dents ainsi déracinées et disséminées sur le flanc du pic. La grotte faisait à peine 20 pieds de profondeur, mais un contrefort rocheux à l'entrée la protégeait efficacement des intempéries. Grâce à cet auvent naturel, on était toujours au sec dans ce refuge. La voûte était assez haute pour que Jensen, pourtant d'une bonne taille, se tienne droite sans difficulté. À peine plus grand qu'elle, Sébastien n'avait pas besoin non plus de se pencher, et ses cheveux blancs hérissés sur son crâne ne frôlèrent pas la pierre quand il alla au fond de la caverne ramasser un peu de petit bois. Les volailles caquetèrent, fort mécontentes qu'on les dérange, mais elles se tinrent prudemment le plus loin possible de l'intrus. Jensen s'agenouilla devant le feu, en face de Sébastien, et le regarda tandis qu'ils se réchauffaient tous deux les mains sur les flammes. Après une journée passée dehors, ce feu était une petite bénédiction. Mais l'hiver n'avait pas encore dit son dernier mot et les pires semaines restaient encore à venir. Jensen tenta de ne pas trop penser que sa mère et elle allaient devoir quitter leur douillette cabane. Dès qu'elle avait vu les deux mots sur le morceau de parchemin, elle avait su qu'une période de leur vie s'achevait. « Tu as faim ?» demanda-t-elle à Sébastien.
« Je meurs de faim, »
répondit le jeune homme, l'air aussi avide que Betty lorsqu'on lui montrait une carotte. À vrai dire, les délicieuses odeurs de cuisson faisaient également gargouiller l'estomac de Jensen.
« C'est très bien. Comme le dit ma mère, un malade qui n'a pas perdu l'appétit sera bientôt guéri.
J'espère être remis dans un jour ou deux.
Te reposer te fera du bien. »
Jensen dégaina son couteau.
Comme tu le sais, nous n'avons jamais accueilli personne ici, donc tu comprendras que nous prenions des précautions. »
Elle lut dans le regard de Sébastien qu'il ne saisissait rien à son petit discours. Cela dit, il semblait trouver logique que les deux femmes se montrent prudentes. Le couteau de Jensen n'avait aucun rapport avec l'arme magnifique que portait le soldat d'Aran. Les deux fugitives n'avaient pas les moyens de s'offrir des merveilles de ce genre. Cette arme-là avait une garde en corne et une lame très fine, certes fragile mais bien tranchante, parce que sa propriétaire l'aiguisait régulièrement. Jensen se fit une petite incision au creux du bras. Choqué, Sébastien parut vouloir protester. D'un regard glacial, Jensen le dissuada d'aller plus loin dans cette voie. Se rasseyant, il la regarda passer la lame dans le sang qui coulait de la petite plaie. Jensen riva son regard dans celui du jeune homme aux cheveux blancs, puis elle se leva,
lui tourna le dos et approcha un peu plus de l'entrée de la grotte où la pluie parvenait à détremper le sol. Avec la lame ensanglantée, la jeune femme dessina d'abord un grand cercle dans la terre. Consciente que Sébastien ne la quittait pas des yeux, elle traça ensuite un carré à l'intérieur de ce cercle, puis un plus petit cercle à l'intérieur du carré. En travaillant, Jensen implora à voix basse les esprits du bien de guider sa main. Sébastien l'entendrait prier, elle le savait, mais il ne parviendrait pas à comprendre ce qu'elle disait. Soudain, elle s'avisa que ce serait pour lui la même expérience qu'elle vivait depuis toujours avec les voix qui résonnaient dans sa tête. Parfois, quand elle dessinait le cercle extérieur, il lui semblait entendre la voix des morts murmurer son prénom. Jensen traça enfin une étoile à 8 branches, dont toutes les pointes traversaient le cercle intérieur, le carré et le cercle extérieur. Quand elle eut terminé, elle leva les yeux et vit que sa mère se tenait devant elle, comme si elle s'était matérialisée dans le diagramme pour être illuminée par la lueur du feu. Avec l'aura que lui conféraient les flammes, elle ressemblait davantage à un esprit qu'à une femme, si belle soit-elle.
Sais-tu ce que représente ce dessin, jeune homme?
Demanda-t-elle d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Sébastien leva la tête, fixa intensément la mère de Jensen, presque tous les gens réagissaient ainsi quand ils la voyaient pour la première fois, et secoua la tête.
C'est une grâce. Ceux qui ont le don en dessinent depuis des milliers d'années. Certains disent que la première fut tracée le jour même de la création. Le cercle extérieur représente la frontière du royaume des morts, sur lequel règne le gardien. Le cercle intérieur symbolise le monde des vivants, et le carré incarne le voile qui sépare la vie et la mort, en les touchant parfois tous les deux. L'étoile est l'image de la lumière du Créateur qui resplendit partout et à tout instant.
Alors que la mère de Jensen se dressait devant lui, le dominant dans la lueur des flammes, Sébastien n'osa pas émettre l'ombre d'un commentaire.
« Ma fille a dessiné cette grâce pour veiller sur toi pendant que tu te reposeras et pour nous protéger. Un diagramme identique est tracé devant la porte de notre maison. Traverser ces symboles sans notre autorisation ne serait pas très sage, jeune homme. »
« Je comprends, Dame d'Aguette, » dit Sébastien, toujours très calme. Il tourna la tête vers Jensen et eut l'ombre d'un sourire.
« Tu es une femme surprenante, Jensen d'Aguette, et pleine de mystères. Ce soir, je dormirai sur mes deux oreilles. »
« Et très profondément, » dit Dame d'Aguette, « en plus du repas, je t'apporte des herbes qui t'aideront à trouver le repos. » Le plat de poisson frit dans la main gauche, Dame d'Aguette prit le poignet de Jensen de la main droite et la fit s'asseoir à côté d'elle devant le feu, juste en face de Sébastien. À voir l'expression grave et concentrée du jeune homme, la démonstration semblait avoir eu l'effet recherché. Dame d'Aguette sourit discrètement à sa fille, qui s'en était merveilleusement bien tirée, puis elle offrit du poisson à Sébastien et s'adressa de nouveau à lui.
« Jeune homme, je voudrais te remercier d'avoir aidé Jensen aujourd'hui. »
« Appelez-moi Sébastien, je vous en prie. »
« C'est ton prénom, effectivement, si j'en crois ma fille. »
« J'ai été très heureux de l'aider. Pour être franc, c'était également très bon pour moi. Je détesterais que des soldats d'Aran se lancent à mes trousses. »
« Le premier morceau de poisson, » dit Dame d'Aguette, « est saupoudré d'herbes qui t'aideront à dormir. »
De la pointe de son couteau, Sébastien s'empara de la tranche spécialement préparée pour lui. Après avoir essuyé la lame de son propre couteau sur sa jupe, Jensen se servit également.
« Ma fille m'a dit que tu n'es pas originaire de Dara. »
« Et c'est la vérité.
J'ai du mal à le croire. Notre pays est entouré par une frontière infranchissable. Je n'ai jamais entendu dire que quelqu'un ait pu un jour entrer ou sortir du royaume. Comment aurais-tu fait ?»
Sébastien souffla sur le morceau de poisson, attendit un peu, puis le mordit à belles dents.
« Depuis combien de temps vous cachez-vous dans cette forêt ? »
demanda-t-il quand il eut avalé sa première bouchée. « Sans voir personne ni entendre de nouvelles ?»«
Cela fait des années. » »«
Dans ce cas, je comprends que vous ne soyez pas au courant. »«
Eh bien, sachez que la frontière n'existe plus désormais. »
Jensen et sa mère encaissèrent en silence cette incroyable nouvelle. Et sans avoir besoin de se consulter, elles entrevirent immédiatement les possibilités qui s'offraient à elles. Pour la première fois de sa vie, Jensen avait une chance de s'enfuir. Un rêve qu'elle croyait irréalisable était peut-être à portée de sa main. Après des années d'errance, sa mère et elle allaient pouvoir se reposer un peu.
« Sébastien, dit Dame Daggett, pourquoi as-tu aidé Jensen aujourd'hui ?»«
Parce que j'aime être utile aux gens. » « Votre fille était terrifiée par le soldat, même mort, et je l'ai trouvée jolie. »
Le jeune homme sourit.
« Du coup, j'ai volé à son secours. De plus, il faut avouer que je ne porte pas les militaires d'Aran dans mon cœur. »
Dame Daggett lui tendant le plat, il se resservit avec joie.
« Chers amis, je crains de m'endormir comme une masse dans très peu de temps, si vous entriez dans le vif du sujet. »
« Nous sommes traqués par les soldats d'Aran. »
« Pourquoi ?»«
Tu le sauras une autre nuit, Sébastien. Enfin, peut-être, selon ce qui résultera de notre conversation. Pour l'heure, une seule chose compte. On nous traque, et Jensen est visé davantage que moi. Si les soldats nous capturent, elle sera assassinée. »
Dit comme cela, songea Jensen, c'était d'une simplicité trompeuse.
Mais il lui réservait un sort bien plus terrible qu'un banal assassinat. Avec ce qu'il lui ferait subir, la mort apparaîtrait comme une délivrance.
« Je n'aime pas cette idée, » dit Sébastien.
« Dans ce cas, » fit Dame Daggett, « nous avons au moins un point commun. »«
Maintenant, je comprends pourquoi vous aimez tant vos couteaux toutes les deux. »«
C'est effectivement pour ça que nous y tenons tellement, »
confirma Dame Daggett.
« Donc, » résuma Sébastien, « vous redoutez que des soldats d'Aran vous trouvent.
Mais ce pays pullule de militaires. Celui d'aujourd'hui vous a terrorisé toutes les deux, dirait-on. Pour quelle raison particulière ?
Ravi que sa mère se charge de la conversation, Jensen ajouta un peu de bois dans le feu. Dans son coin, Betty bêlait pour avoir une carotte ou un peu d'attention. Au fond de la grotte, les volailles protestaient bruyamment contre la lumière et le bruit.
« Jensen, » dit Dame Daggett, « montre à Sébastien le morceau de parchemin que tu as trouvé sur le soldat mort. »
Stupéfiée, la jeune femme attendit que sa mère lui confirme d'un regard qu'elle était disposée à courir tous les risques pour fuir Dara.
« Je l'ai découvert dans la poche du cadavre, »
dit-elle en sortant de sa poche la note qu'elle tendit à Sébastien,
« juste avant ton arrivée. »
Le jeune homme aux cheveux blancs déplia le morceau de parchemin, le lissa entre le pouce et l'index et jeta un regard soupçonneux aux deux femmes. Puis, il baissa les yeux sur les deux mots écrits en lettres capitales.
« Jensen Lindy, » lut-il à haute voix.
« Je comprends pas. Qui est Jensen Lindy ?»«
Moi, » dit Jensen. « Enfin, je l'étais à une époque. »«
Pardon. Désolé, mais je ne comprends pas. »
C'était mon nom il y a quelques années quand je vivais très loin au nord d'ici. Ma mère et moi, nous nous déplaçons sans cesse pour ne pas être capturés. Chaque fois que nous nous installons quelque part, nous changeons de nom ou de prénom, ou nous intervertissons l'un ou l'autre pour ne pas risquer d'être reconnus.
« Alors, vous ne vous appelez pas vraiment Daggett ?»«
Non. »«
Et quel est votre véritable nom de famille ?»«
Cela aussi, tu l'apprendras un autre soir. » dit Dame Daggett d'un son assez catégorique pour que le débat soit clos.
« Une seule chose compte. Ce soldat mort avait sur lui un ancien nom de Jensen. Ça ne peut rien présager de bon. »«
Justement, » dit Sébastien, « c'est un ancien nom. Maintenant, vous vous appelez Daggett et personne ne vous connaît sous le patronyme de Lindy. »
Voyant sa mère se pencher sur le jeune homme aux cheveux blancs, Jensen devina qu'elle le foudroyait du regard et qu'il devait se sentir très mal à l'aise. Dame Daggett, comme il l'appelait, pouvait dévisager les gens d'une façon qui leur glaçait les sangs.
« Ce n'est peut-être plus notre nom, »
Mais cet homme l'avait sur lui et il rôdait non loin de notre cachette actuelle. D'une manière ou d'une autre, il avait dû établir un lien entre ce nom et nous, lui ou plus probablement son maître d'ailleurs, et à présent on nous cherche dans les environs. Sébastien détourna le regard et prit une profonde inspiration.
« Je vois ce que vous voulez dire, » fit-il avant de se réattaquer à son morceau de poisson.
« Ce soldat mort n'était sûrement pas le seul, » dit Dame Daguette. « En l'enterrant, Jensen et toi avez gagné du temps puisque ses camarades ne sauront pas ce qui lui est arrivé. C'est notre seul avantage, et nous devons en profiter en filant avant que le piège se referme sur nous. Demain à l'aube, Jensen et moi partirons d'ici. »
« Vous êtes sûr que c'est la bonne solution ?» demanda Sébastien. « Vous avez un foyer dans cette forêt, et personne ne peut vous trouver. » Si je n'avais pas vu Jensen près du mort, je ne me serais jamais douté que deux femmes vivaient dans le coin. Les soldats ne vous débusqueront pas, alors pourquoi abandonner un refuge si agréable ?»«
Parce que nous tenons à rester vivantes, » répondit Dame Daguette. « Je connais l'homme qui nous traque. Depuis des millénaires, sa lignée persécute et égorge des innocents. Il ne renoncera pas. Si nous restons, il nous trouvera un jour ou l'autre. Fuir est notre seul espoir. »
Dame Daguette tira de sa ceinture le couteau à garde d'argent.
« Le R, gravé sur le manche, » dit-elle, « est l'emblème de la maison Rall. Le seigneur Rall, l'homme qui nous persécute, doit avoir offert cette arme à un soldat particulièrement méritant. Je ne veux pas d'un couteau donné à un monstre par un autre monstre. »
Sébastien baissa les yeux sur le couteau, mais ne s'en empara pas. Puis il jeta aux deux femmes un regard plein de férocité et de détermination qui surprit Jensen et lui glaça les sangs.
« Chez moi, nous trouvons très bien d'utiliser contre un ennemi un objet auquel il tient ou qu'il a offert à une personne chère. »
Jensen n'avait jamais entendu quelqu'un tenir un discours pareil. Elle remarqua que sa mère ne bougeait pas, l'arme toujours dans la main.
« Je ne... »
« Voulez-vous retourner contre lui un couteau qu'il vous a involontairement remis ?»
demanda Sébastien. « Ou préférez-vous rester des victimes ?»«
Que veux-tu dire ?»
demanda Jensen.
« Pourquoi ne le tuez-vous pas ?»
Dame Daguette parut moins étonnée que sa fille par cette suggestion.
« Nous ne pouvons pas, » répondit-elle, « parce que cet homme est trop puissant. » Il est protégé par des milliers de soldats ordinaires et des centaines de spécialistes, comme celui que vous avez enterré aujourd'hui. De plus, des sorciers veillent sur sa sécurité. Deux pauvres femmes ne peuvent pas s'attaquer à lui. »
Sébastien ne parut pas convaincu par ce discours. « Il ne renoncera pas tant qu'il ne vous aura pas tué, » dit-il.
Il brandit le morceau de parchemin.
« En voilà la preuve. Alors pourquoi ne pas le frapper la première, Dame Daguette ? Un bon moyen de sauver votre fille, pas vrai ? Préférez-vous vraiment continuer à fuir et attendre le jour où il vous capturera ?
Et comment pourrions-nous assassiner le seigneur Rall, d'après toi ?
Demanda la mère de Jensen, très agacée. Avant de répondre, Sébastien piqua un nouveau morceau de poisson au bout de son couteau.
Pour commencer, gardez ce couteau. C'est une arme bien supérieure aux vôtres. Retournez contre votre ennemi les objets qui lui appartiennent. Refuser cette lame revient à rendre service à Rall, pas à Jensen. »
Dame Daguette ne broncha pas plus qu'une statue de marbre.
Jensen n'avait jamais entendu quelqu'un parler comme Sébastien. Après l'avoir écouté, on ne voyait plus les choses de la même façon. « Ce que tu dis est logique, il faut l'avouer, »
déclara Dame Daguette.
« Tu m'as ouvert les yeux, Sébastien. Enfin, à demi. Je connais trop le seigneur Rall pour tenter de l'assassiner comme tu le proposes. Au mieux, ce plan serait un suicide, et au pire, il reviendrait à entrer dans le jeu de notre bourreau. Mais je garderai le couteau, et je penserai à l'utiliser pour me défendre et protéger ma fille. Sébastien, merci d'avoir été la voix de la raison alors que je m'entêtais à faire la sourde oreille. »
« Je suis content que vous gardiez l'arme, » dit le jeune homme.
Il goba son bout de poisson et le savoura un moment.
« J'espère qu'elle vous sera utile. »
Du dos de la main, il essuya la sueur qui ruisselait sur son front.
Si vous ne voulez pas essayer de tuer Hérald, qu'envisagez-vous de faire pour rester en vie? Fuir jusqu'à la fin de vos jours?
Tu as dit que la frontière n'existait plus. Je propose que nous quittions Dara pour vivre dans un pays où Darkenral ne pourra pas nous atteindre.
Sébastien se servit un nouveau morceau de poisson puis leva les yeux sur Dame Daggett.
Darkenral? Cet homme est mort.
Jensen en fut sonné. Depuis toujours, elle fuyait Darkenral, se réveillant presque chaque nuit d'un cauchemar où elle voyait ses yeux bleus de prédateur se river sur elle. Combien de fois avait-elle imaginé qu'il lui bondissait dessus sans qu'elle puisse se défendre? Y avait-il eu un jour, depuis toutes ces années, où elle n'avait pas pensé aux tortures qu'il lui infligerait s'il parvenait à s'emparer d'elle? Un soir où elle n'avait pas imploré en vain les esprits du bien de la débarrasser de son bourreau et de ses séides? Pour elle, Darkenral était un être quasiment immortel, comme le mal lui-même, et voilà qu'il n'était plus.
Mort? Darkenral? C'est impossible, souffla-t-elle, des larmes de soulagement ruisselant sur ses joues.
En même temps, elle se sentait oppressée, comme si son cœur venait d'être pris dans un étau.
Et pourtant, c'est la stricte vérité, dit Sébastien. Darkenral est mort il y a 2 ans, d'après ce que j'ai entendu dire.
Alors, ce n'est plus lui qui nous menace? Dit Jensen. Mais s'il ne règne plus sur Dara...
Son fils l'a remplacé,
acheva Sébastien.
Son fils?
Répéta Jensen, comprenant dans quel nouvel étau était pris son cœur.
Rien n'a changé,
dit Dame Daggett, parfaitement calme et résignée.
Le seigneur Hal nous traque comme avant et il continuera jusqu'à la fin des temps.
Immortel, comme le mal lui-même.
Le nouveau seigneur se nomme Richard, dit Sébastien.
Richard Hal. Ainsi Jensen connaissait maintenant le nom de son bourreau.
Une idée terrifiante lui traversa l'esprit. Jusque-là, elle n'avait jamais entendu la voix murmurer autre chose que son nom et le mot « renoncer ». Mais quelques heures plus tôt, elle avait exigé qu'elle renonce à sa chair et à sa volonté.
Si c'était bien la voix de son poursuivant, comme le pensait sa mère, le nouveau seigneur Hal devait être encore plus puissant et maléfique que son père. Serait-il simplement possible de fuir un tel monstre?
Ce Richard Hal,
dit Dame Daggett, cherchant à faire le tri dans une cataracte de nouvelles,
est monté sur le trône après la mort de son père?
Le regard brillant soudain de rage, Sébastien se pencha vers la mère de Jensen.
Richard Hal règne sur Dara depuis qu'il a assassiné son père pour prendre le pouvoir. Et si vous êtes encline à penser qu'il est moins dangereux que son géniteur, permettez-moi de vous détromper en vous apprenant une nouvelle de plus. C'est Richard Hal qui a détruit la frontière et les tours de la perdition.
Jensen ne dissimula pas qu'elle n'y comprenait plus rien.
Mais pourquoi a-t-il fait ça? En agissant ainsi, il ouvre une voie d'évasion aux gens qu'il persécute en Dara.
Certes, mais il s'en fiche. Car cela lui permet d'exercer sa tyrannie sur des pays qui étaient hors de portée de son père.
Sébastien se frappa la poitrine du poing.
Ce chien veut conquérir ma terre natale. Richard Hal est fou. Dara ne lui suffit plus, il veut dominer le monde.
Dame Daggett baissa les yeux sur les flammes et soupira d'accablement.
J'ai toujours cru, ou plutôt espéré, je crois, que la mort de Darkenral serait une chance pour nous. Le morceau de parchemin que Jensen a trouvé aujourd'hui sur le soldat mort prouve que le fils est encore pire que le père. Je m'étais fait des illusions. Darkenral n'était jamais parvenu à nous serrer de si près.
Après avoir eu une bouffée d'espoir éphémère, Jensen se sentait plus terrifié et désespéré que jamais. Voir qu'il en allait de même pour sa mère lui brisait le cœur.
Je garderai le couteau,
dit Dame Daggett d'un ton qui trahissait à quel point elle redoutait le nouveau seigneur Hal.
Parfait,
dit Sébastien. Dans les flaques d'eau devant l'entrée de la grotte,
Les gouttes de pluie faisaient éclater en improbables arcs-en-ciel les reflets de la lumière dansante qui filtrait de la cabane. Dans un ou deux jours, l'eau serait glacée partout et voyager deviendrait un peu plus facile s'il cessait de pleuvoir.
« Sébastien, dit Jensen, crois-tu... Eh bien, crois-tu que nous ayons une chance de quitter Dara? Peut-être pour aller dans ton pays aussi loin que possible de ce monstre ?»«
C'est envisageable, oui. Mais tant que Richard Rall vivra, rien ni personne ne sera hors de sa portée, vous devez le savoir. »
Dame Daggett glissa le superbe couteau à sa ceinture, puis croisa les mains autour de ses genoux.
« Merci, Sébastien, tu nous as beaucoup aidés. À force de nous cacher, nous vivions dans l'obscurité, et tu nous auras apporté un peu de lumière.
Désolé de ne pas avoir eu de meilleures nouvelles.
La vérité est précieuse, car elle nous aide à savoir que faire. »
Dame Daggett sourit à sa fille.
Jensen s'acharne depuis toujours à découvrir la vérité sur tout, et je ne lui ai jamais menti, même et surtout quand cela l'aurait protégé. La vérité est la meilleure arme possible lorsqu'on se bat pour survivre, c'est aussi simple que ça.
Si vous ne voulez pas tenter de le tuer parce qu'il ne vous menace plus, dit Sébastien, vous pourriez imaginer un plan pour détourner de Jensen l'attention du seigneur Rall.
Dame Daggett secoua la tête.
« Les choses sont bien plus compliquées que tu le penses, et nous ne pouvons pas tout te dire ce soir. Sache que notre ennemi ne renoncera jamais. Tu ne peux pas comprendre jusqu'à quelles extrémités ira le seigneur Rall, quel que soit son prénom, pour se débarrasser de Jensen. »
« Dans ce cas, vous feriez peut-être bien de filer toutes les deux. »«
Nous aideras-tu à fuir Dara ?»
demanda Dame Daggett. Sébastien prit le temps de réfléchir à sa réponse.
« Si c'est possible, je veux bien essayer. Mais une fois encore, sachez que vous ne trouverez aucun refuge sûr. Pour être libre, vous devrez tuer cet homme. »«
Je n'ai pas l'âme d'un assassin, »
déclara Jensen très calme, comme si elle avouait simplement son impuissance face à un adversaire qui ne reculait devant rien.
« Je veux vivre, mais commettre un crime n'est pas dans ma nature. » Me défendre, oui, tuer de sang-froid, sûrement pas. C'est triste à dire, mais je ne suis pas à la hauteur du seigneur Rall, qui a le meurtre dans le sang.
Sébastien chercha le regard de Jensen et le soutint froidement.
Tu serais surprise de ce que peut faire un être humain quand on lui fournit les bonnes motivations.
Dame Daggett leva une main pour interrompre cette conversation fumeuse. En digne femme de tête, elle refusait de perdre son temps en spéculation philosophique.
Pour le moment, l'important pour nous est de fuir. Les séides du seigneur Rall sont bien trop près de nous. D'après ma description et l'arme qu'il portait, le soldat mort devait appartenir à un quatuor.
Un quoi ? Demanda Sébastien.
Une équipe de quatre tueurs. Quand la cible a beaucoup de valeur et ne se laisse pas attraper facilement, il arrive que plusieurs quatuors la traquent. Jensen entre bien entendu dans cette catégorie de proie.
Pour quelqu'un qui se cache depuis des années, dit Sébastien, vous savez beaucoup de choses sur ces quatuors. Dame Daggett, vous êtes sûre de vos informations?
Quand j'étais jeune, je vivais au palais du peuple, mon garçon, et j'ai souvent vu les tueurs que Darkenrall lançait sur la piste de ses ennemis. Ce sont des brutes dont tu ne peux même pas imaginer la perversité.
Eh bien, fit Sébastien mal à l'aise. « Je suppose que vous en savez plus long que moi. »
Il bâilla et s'étira.
« Vos herbes agissent déjà, Dame Daggett, et cette fièvre m'a épuisé.
Après une bonne nuit de sommeil, je suis prêt à vous aider, votre fille et vous, à quitter Dara pour aller dans l'ancien monde, si c'est ce que vous voulez. »«
C'est notre désir, oui. »
Dame Daggett se leva.
« Finissez le poisson, mes enfants. »
Alors qu'elle gagnait la sortie, elle caressa la nuque de Jensen.
« Je vais préparer nos affaires. Enfin, tout ce que nous pourrons emporter. Je te rejoindrai dès que j'aurai couvert le feu, maman. »